Bonsoir. 9 soldats et 6 civils, dont 2 femmes tuées, c'est le bilan de l'attaque des hommes armés samedi et dimanche contre les FRDC dans les territoires de Djougou en Ituri. À Kilemwe, dans les territoires des Fils au sud Kivu, les combats ont repris lundi dernier entre les FRDC et le groupe coralisé Mai Mai dirigé par le général autoproclamé Yakutumba William. Les bilans dressés par des sources concordantes fait état d'une dizaine de morts et des blessés de part et d'autre. Quelle analyse faire de la persistance de l'insécurité dans l'Est de la RDC? C'est l'objet du débat de ce soir et nous avons dans cette émission Jefferson Abdallah Penembaka, il est gouverneur de la province de l'Ituri. Bonsoir monsieur le gouverneur Jefferson Abdallah Penembaka.
Bonsoir monsieur le journaliste estimateur.
Maître Juvenal Mounoubo Moubi, député national de l'opposition et cadre du parti politique UNC. Il est membre de la commission défense et sécurité et rapporteur de la sous-commission des forces armées à l'Assemblée nationale. Bonsoir, honorable Juvenal Mounoubo Moubi.
Bonsoir, monsieur Guy. Bonsoir à tous les auditeurs.
Et Timothée Tchaombo Soutcha, il est chercheur en coopération, prévention et résolution des conflits à l'Université de Louvain en Belgique. Bonsoir, monsieur Timothée Tchaombo Soutcha.
Bonsoir, cher Guy Mathieu.
Bienvenue à tous dans cette émission.
Bonsoir.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
9 soldats et 6 civils, dont 2 femmes tuées, c'est le bilan de l'attaque des hommes armés samedi et dimanche sur les FRDC dans les territoires de Djougou, en Ituri. Ces carnages ont eu lieu dans les villages de Movaramo, Songa, Moya et Tara, à plus ou moins 80 km de Bounia. Les récits de Martial Kiza Biamungu.
12 corps sont exposés à Kasseni, base des soldats tués de la force navale depuis dimanche soir. Ils sont venus de Movaramo. Il s'agit de 6 militaires et 6 civils, dont 2 femmes. Selon les chefs de secteur de Baïmassid, dont Kasseni est le chef-lieu, les corps sont décapités. Douglasias Roussoke indique que 3 autres corps des militaires étaient en route pour Kasseni, ce qui porte à 15 le nombre des morts. Des sources sécuritaires rapportent que 30 personnes prises en otage par des assaillants sont relâchées depuis la nuit dernière. Et il manque encore à l'appel. Ces assaillants lourdement armés, selon des témoins, ont aussi apporté plusieurs armes de FARDC. Les sources médicales rapportent que 8 blessés graves sont internés dans un hôpital de la région. Parmi eux, un enfant de 13 ans. Cette situation suscite un émoi dans tous les milieux ici à Ituri. Les femmes de militaires ont même manifesté leur colère ce matin à Kasseni. Les porte-parole de FARDC indiquent cependant que la situation est sous contrôle de l'armée à ce moment. Le lieutenant Gilles Ngongo ne reconnaît que 2 morts dans les rangs, ce que contestent tous les témoins sur terrain. Bounia, Martial Kizegamongo, Radio Okapi.
Lundi dernier, 12 corps parmi les 15 enregistrés au cours des attaques des assaillants contre 3 positions des FRDC dans les territoires de Djougou ont été mis en terre à Kasseni, à 55 km au sud de Bounia. C'était en présence du commandant local de la force navale à laquelle appartenaient les victimes. 3 autres corps de militaires sont toujours attendus à Kasseni. Entre-temps, la société civile de l'Ituri demande aux autorités une prise en charge correcte des blessés. La cité de Kilemwe, dans les territoires de Fizi, est occupée depuis 4 jours par la coalition des Mai Mai, des groupes Yakutumba et Cheikh Hassan. C'est après des violents affrontements le week-end dernier avec les FRDC. Les chefs du secteur de Lulengue, qui confirment la nouvelle, affirment que les rebelles évoluent vers d'autres localités où ils tiennent des meetings. Les FRDC parlent d'un repli stratégique. Fiston Goma pour les détails.
Des sources militaires socolades au sud du site qui vous contactaient ce matin se disent encore très préoccupées par les opérations militaires au front. Le commandant de secteur opérationnel, le général David Rugaï Sengabo, reste injoignable pour donner sa version des faits sur cette offensive des forces coalisées de Yakutumba. Les habitants dans la cité de Baraka affirment observer un mouvement des troupes de FRDC en déploiement vers la zone des combats à l'extrême sud du territoire de Fizi. Hier, au cours d'un meeting populaire tenu par le leader de cette rébellion, William Amuri Yakutumba a signifié que cette guerre de libération finira à Kinshasa. Il va autoriser la reprise des cours dans les écoles de la place une fois que le contrôle effectif de l'entité sera assuré, a-t-il dit. Tôt ce mardi matin, des coups de feu ont été entendus à Penemende. Mais on ne sait pas qui d'entre les FRDC et les Mai Mai contrôle cette localité, confirme le chef de secteur de Lulenga Samuel Kabindola. Des sources militaires affirment que les assaillants ont tenté ce matin d'entrer à Penemende, mais ils ont été repoussés. Nous nous préparons à lancer la contre-offensive et récupérer toutes les localités des messes des assaillants, a indiqué cette source militaire. D'ouvrir à Fiston Ngoma Mayaba, la radio Kapi.
Merci à vous, Fiston Ngoma. Jefferson Abdallah Penembaka, gouverneur de la province de l'Ituri. 15 personnes, dont 9 militaires et 6 civils, ont trouvé la mort le week-end dernier dans une attaque contre les positions des FARDC dans les territoires de Djougou. L'on parle des assaillants non identifiés. Et 5 jours après, quelles sont les informations que vous détenez sur ces assaillants, monsieur le gouverneur?
Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour cette opportunité. Je dois commencer à travers votre radio à saluer tous mes concitoyens qui sont en train de me suivre à ce moment sur l'Assemblée de la province de l'Itoul. Je dois aussi, à cette même occasion, présenter mes condoléances et les plus sincères à l'endroit de toutes ces familles qui ont été d'une manière ou d'une autre touchées par ces événements, ceux-là qui ont perdu directement le leur, qui trouvent à travers ces mots les sentiments de condoléances, et ceux-là qui ont eu à se déplacer. Et nous pensons qu'il est temps de les rassurer que le gouvernement de la République, que le gouvernement provincial ne va ménager aucun effort pour que la situation se rétablisse le plus vite possible. Pour le moment, la situation est sous contrôle. Elle a été stabilisée par un renfort de forces armées venues de Bounia et dans d'autres localités du territoire de Djougou. Je peux vous rassurer que nous sommes allés, même, on est parvenu même à mettre la main sur certains meneurs de ce groupe, parce qu'au début, nous, comme je crois vous pouvez vous rappeler, j'avais dit que ce conflit de Djougou a deux facettes. Il y a la première facette qui est communautaire, et la deuxième facette, il y avait une milice en gestation. On était en train de poursuivre des pistes, mais malheureusement, on n'a pas réussi la totale collaboration de la population, la totale collaboration de certains chefs locaux. C'est ce qui ne nous a pas facilité de pouvoir mettre la main directement sur ces réseaux-là. Et à quelque chose, malheureusement, à travers cette attaque, ces mafieux se sont fait dévoiler, et je vous assure que toutes les dispositions ont été prises et ils sont suffisamment neutralisés pour le moment. Je ne veux même pas citer le nom de ceux-là qui ont été déjà arrêtés avec leur chef. Je ne peux pas polémiquer autour des statistiques ou bien des nombres de victimes, ainsi de suite. Je pense, le moment venu, à travers les canaux appropriés, tout sera mis à la disposition de l'opinion nationale et internationale. Voilà ce que je peux dire par rapport à la situation du terrain.
Oui, monsieur le gouverneur, vous dites que certains meneurs ont été arrêtés et vous avez affirmé que le conflit en Ituri a deux facettes, ethnique et une rébellion en gestation. Et ces meneurs que vous avez arrêtés, qu'est-ce qu'ils vous donnent comme information? Est-ce que vous pensez qu'ils font partie, n'est-ce pas, de ces ethnies principales qui sont dans la province de l'Ituri? Où il s'agit, n'est-ce pas, des éléments qui sont en train de se constituer en une nouvelle rébellion?
Je pense que cette facette de ce dossier, pour le moment, c'est la facette de rébellion. Je ne pense pas que c'est le moment de pouvoir tout dire ici au niveau du micro de la radio Capri. Le moment venu, on mettra tout à la disposition de l'opinion, comme je l'ai dit. Au niveau provincial, nous avons mis en place une commission interservice. Cette commission est vraiment à pied d'œuvre et à partir de demain, parce que c'est seulement aujourd'hui que ceux-là qui ont été appréhendés en France sont arrivés à Bounia, à partir de demain, ils seront mis sous interrogatoire pour que toutes les vérités soient dites. Il ne faudra pas oublier que certains des éléments dont nous disposions déjà à partir de ceux-là qui ont été arrêtés dans la première vague, dont le procès est en train de se poursuivre, ces éléments, nous allons essayer de les combiner, et soyez rassurés, monsieur le journaliste, le moment venu, on mettra tout, parce qu'il n'y aura pas de sujet tabou, on mettra tout à la disposition de l'opinion.
Voilà, vous privilégiez la facette des rébellions. Et ces gens, est-ce qu'ils font partie soit du FRPI ou de l'armée du Seigneur?
Pour le moment, je préfère ne pas aller un peu plus loin. Parce que il n'y a pas, les FRPI est un peu au site, l'armée du Seigneur, je ne saurais pas confirmer ou affirmer. Et ils sont en contact avec l'extérieur du pays, je ne saurais pas confirmer ou affirmer. Mais à ce stade aussi, toutes les hypothèses, aucune hypothèse ne peut être écartée. Attendons voir les éléments qui sont sur terrain, eux, ceux-là qui sont à Bounia pour cet interrogatoire, certainement les éléments qui recevront vont nous édifier davantage.
Monsieur le gouverneur, pendant ces temps, les forces coalisées de Yakutumba occupent la cité de Kilembwe dans les territoires des Fizi au sud Kivu. Comment vous analysez, n'est-ce pas, cette persistance de l'insécurité dans la partie est de la RDC, monsieur le gouverneur Jefferson Abdallah?
Oui, je pense sincèrement, avec un peu de recul, nous devons savoir, je ne suis pas militaire, en principe, une rébellion, lorsqu'elle est enclenchée, on doit savoir l'idéologie de la rébellion et les objectifs de cette rébellion. Et avant d'aller voir l'idéologie, les objectifs, et on jette un coup d'œil derrière et on voit ce que la rébellion a comme base arrière. Je vous assure que ça, c'est tout simplement des réseaux mafieux qui sont financés pour la simple déstabilisation de la République. Certains ont, ils trouvent le moyen à travers certains de nos opérateurs économiques verrés, et d'autres, il ne faut pas oublier, qui sont en intelligence avec certains pays extérieurs pour qu'ils soutiennent. Le seul souci qu'ils ont, c'est de déstabiliser la République pour que nous puissions être pendant longtemps en train de nous concentrer sur la sécurité au lieu de commencer à penser au développement de notre contrée. Voilà, c'est ces réseaux mafieux qui créent ces histoires juste pour créer des no man's land, juste pour chercher à avoir la maîtrise de certains carrés miniers, de certains puits miniers, ainsi de suite, sans objectif quelconque. Voilà. Mais malheureusement, nous en avons connu à Mombasa avec cette nébuleuse de Mai Mai qui est allée jusqu'à Epoulou pour détruire la réserve de fauna Okapi.
Merci.
Et les Okapi, avec quel objectif? Et depuis lors, ils sont restés dans la forêt en train de commettre uniquement des exactions. C'est là où nous devons interpeller les décideurs, c'est là l'opinion internationale, en disant ceci. Ce pays-là que vous êtes en train de soutenir, malheureusement, ce sont les mêmes pays qui soutiennent des mouvements insurrectionnels à l'intérieur du pays, de la République démocratique du Congo, pour nous déstabiliser. Ils ont votre soutien. Vous vous dites que vous soutenez les droits de l'homme, vous combattez contre l'impunité, mais ces gens-là qui entretiennent des réseaux mafieux dans la République démocratique du Congo.
Merci, monsieur le gouverneur. En fait. Oui, monsieur le gouverneur, vous parlez des pays que la communauté internationale soutiendrait. Il s'agit de quel pays précisément?
Je crois que ce n'est ni le cadre ni le lieu pour pouvoir le citer. Et le moment venu, je crois au nom de la nation congolaise, on sera
amené
à le citer.
Merci, je vais vous redonner la parole, monsieur le gouverneur. Maître Juvenal Munubu Mubi, député national de l'opposition et cadre du parti politique UNC, vous êtes membre de la commission défense et sécurité et rapporteur de la sous-commission des forces armées à l'Assemblée nationale. Et comment vous réagissez à ces attaques qui se produisent presque au même moment, pendant la même période, à Ituri, au sud Kivu et au nord Kivu?
Tout d'abord, je salue le gouverneur Abdallah, je salue également l'analyste Timothée qui interviennent avec moi dans cette émission. Je présente, comme l'a fait le gouverneur Abdallah, mes condoléances aux victimes et aux familles des victimes. Mais je souligne ici que les condoléances ne suffisent pas, parce que comme politique, comme député, comme gouverneur, nous ne devons pas nous limiter à présenter les condoléances. Je suis aussi étonné par le fait que le gouverneur dit que la situation est sous contrôle. Au même moment, il dit que la situation est sous contrôle. Au même moment, il a la peine à identifier les groupes en question. On ne sait pas, est-ce que c'est les FRPI, est-ce que, comme vous lui avez même posé la question, est-ce que c'est LRA, est-ce que c'est un nouveau groupe? Et donc, ça contraste. On ne peut pas dire d'une part que la situation est sous contrôle et de l'autre, on a la peine à identifier ceux qui ont tué les gens, les militaires et les civils. Donc je crois qu'il faut avoir l'humilité nécessaire, hein. Il ne faut pas faire du triomphalisme. Et il faut prendre la question au sérieux. Pourquoi? Parce que, souvenez-vous, il y a quelques mois, il y a eu une sorte de résurgence des conflits en Ituri. Parce que les conflits avaient pris fin dans un premier temps en 2003, grâce à la force Artemis, la force européenne, souvenez-vous. Mais il y a eu une résurgence il y a quelques mois, si j'ai bon souvenir, c'était vers fin 2017. Il y a eu même des morts. Et donc, on ne peut pas prendre ces situations à la légère. Évidemment, il faut investiguer, il faut faire des enquêtes. Il faut que les forces de sécurité fassent leur travail. Donc, ce n'est pas le moment de dire que la situation est sous contrôle. Voilà, ça, c'est une première remarque. Et puis, comment analyser cette situation? Les causes de l'insécurité à l'est du Congo, il n'existe pas une seule cause. Hein, parce que les officiels ont tendance à dire que la cause, c'est la connivence entre les groupes armés et la population ou les leaders locaux. Ça, c'est une rhétorique officielle habituelle. Parfois, ils disent que c'est un complot extérieur. Ça, nous entendons souvent de la bouche des officiels congolais, c'est-à-dire des membres du gouvernement. Je crois qu'il y a tout un faisceau de causes. Il y a tout un faisceau de facteurs. Et parmi ces facteurs, il y a le retard dans la réforme du secteur de sécurité, c'est-à-dire dans la réforme de l'armée, dans la réforme de la police, des services de renseignement, des services d'immigration et de la justice aussi. Donc c'est à ces niveaux, tout ce que nous sommes en train de connaître, ça découle de ça. Lorsque la réforme n'a pas abouti, parce qu'avoir des lois organiques, ça ne suffit pas. Il faut placer les militaires, les policiers dans de bonnes conditions de vie et de travail. Il faut faire une bonne affectation, parce qu'il y a des endroits où vous ne trouverez que 5 policiers, par exemple, avec une arme, face aux groupes armés qui sont surarmés. Et donc ça, c'est un problème. Un autre problème, la gestion des démobilisés. Hein, il y a eu des programmes DDR dans ce pays en 2004. DDR 1, il y a eu DDR 2 vers 2009, si j'ai bonne souvenance, et maintenant on nous parle de DDR 3. Est-ce que le programme DDR a été efficace? Je viens d'un forum au Sud Kivu sur la sécurité organisé par les deux provinces, sur initiative d'une ONG qui s'appelle INASBEL, qui s'appelle Action pour la paix et la concorde. Eh bien, on a analysé cette question et on a trouvé qu'il y a des faiblesses dans les DDR. Bon, et il faut que l'État, à travers l'unité d'exécution du PNDDR, soit ouvert, intègre les desiderata, les idées, parce que la société civile qui travaille dans ce domaine a des propositions à faire pour repenser les DDR, pour que les DDR soient efficaces cette fois-ci. Voilà. Il faut savoir ceux qui quittent la brousse, où est-ce qu'ils sont cantonnés, où est-ce qu'ils sont réinsérés dans la vie civile. Ça ne sert à rien de les amener très loin dans des centres comme Kitona, comme je ne sais pas moi où, Kamina ou Kotakoli. Et là, la prise en charge ne suit pas.
Voilà,
Il faut que les officiels aient l'humilité nécessaire pour considérer que des facteurs, il y en a beaucoup, et pas limiter les champs des facteurs ou des causes. Les causes, il y en a beaucoup. La situation économique elle-même, et l'enclavement du territoire, lorsqu'il n'y a pas de routes, comment voulez-vous que la paix revienne dans des territoires très enclavés, il n'y a pas de routes, où il y a une jeunesse qui n'est pas encadrée, il n'y a pas de perspectives? Comment avoir la paix lorsque la traçabilité des minerais n'est pas assurée partout, lorsque certains groupes armés se servent du commerce du bois et des ivoires? Tout ça, les causes, il y en a beaucoup, et on ne peut pas, avec une suffisance, comme je viens d'entendre les gouverneurs, dire que la situation est sous contrôle.
Donc,
c'est un langage, une rhétorique. Voilà. Habituel, on est habitué à cette rhétorique.
Voilà, vous avez donc évoqué un certain nombre de causes à la base de cette insécurité qui sévit dans l'est de la RDC. Et à Djougou, on parle des éléments non identifiés. Au Nord Kivu, on a toujours parlé des présumés ADF. Et comment vous comprenez cette difficulté que on a souvent, n'est-ce pas, à pouvoir identifier ces éléments qui endeuillent les familles congolaises?
Oui, mais l'armée congolaise, les forces de sécurité se trouvent presque débordées. C'est ça l'impression que nous avons. Pourquoi? Parce que ça bouge un peu partout, en Ituri, au Nord Kivu, à Rutshuru, pas plus tard qu'il y a 2 jours, on a tué le directeur de la prison de Kiwanja, vous avez suivi. Et tout ça, on ne sait pas qui a fait ça. Et puis au Sud Kivu, Yakutumba, qui se déclare... à la tête d'une coalition de Maïmaï, et l'objectif c'est d'aller jusqu'à Kinshasa, eh bien, le gouvernement nous donne l'impression qu'il est un peu débordé. Pourquoi? Parce que nous le disions plusieurs fois sur ces antennes, nous avons adressé des propositions au gouvernement, des propositions d'action. La réforme du secteur de sécurité n'avance pas. La collaboration entre les forces de sécurité congolaise et la MONUSCO n'est pas cette collaboration qu'on aurait souhaité, parce que si la MONUSCO est ici, c'est une grande force internationale des Nations Unies, eh bien, on devrait capitaliser cette présence. Il faut qu'il y ait une bonne collaboration, il faut que ça impacte sur la paix.
Merci.
Il n'y a pas aussi un mécanisme de collaboration entre les forces de sécurité et la population.
Merci.
Censé fournir des informations sur les caches ou les liens où se dissimulent les groupes armés.
Merci,
il y a des recommandations qu'on a toujours adressées aux officiels congolais.
On va revenir. On va revenir dans la deuxième partie.
Aujourd'hui, on ne peut pas s'étonner qu'on a comme l'impression que les forces de sécurité sont un tout petit peu débordées.
Merci, nous allons vous redonner la parole. Timothée Tchaombo Soutcha, chercheur en coopération, prévention et résolution des conflits à l'Université de Louvain en Belgique. Les recherches ont démontré qu'il existe environ une centaine de groupes armés qui sévissent dans les triangles Calais, Walikale et Masisi, dans les provinces du sud et nord Kivu. Ajouter à cela des groupes armés qui pullulent, n'est-ce pas, en Ituri et dans l'ex-province du Katanga. Et quelle explication vous donnez à cela, vous, en tant que chercheur?
Il y a trois explications principales. Je voulais saluer Juvenal, mon frère, et le gouverneur, et présenter au même moment les condoléances, hein, non seulement aux familles militaires, aux familles en pays, mais aussi à Kinshasa, les massacres, le meurtre à Kinshasa, là, sur place, hein, le gouverneur parle de la situation qui est sous contrôle, elle n'est pas du tout sous contrôle, hein, sous contrôle, parce qu'à même à Kinshasa, on tue, et là encore, ce sont des gens qu'on ne sait pas identifier. Je reviens à la question principale. Donc, trois explications de mon point de vue. La première explication, c'est d'abord et avant tout pour qu'un groupe armé puisse fonctionner avec des hommes, qu'on doit entraîner, qu'on doit ravitailler. Ça doit avoir d'abord et avant tout des bases aériennes dans le pays voisin. Si ce n'est pas le cas, le deuxième élément, c'est que ces groupes armés peuvent être soutenus par le pouvoir en place. Le troisième élément, ça peut être tout simplement des groupes qui ne sont pas soutenus par les groupes, le pouvoir en place, mais la faiblesse de l'État. Voilà trois principaux éléments. Ça veut dire base arrière avec soutien des pays voisins. Soit ce sont des groupes armés qui travaillent en connivence avec le pouvoir en place et voilà la difficulté même d'identifier, même le refus d'identifier ces groupes-là ou ces personnes-là. Et troisièmement, Juvenal l'a soulevé, la faiblesse dans les structures de l'État. Est-ce que vous vous rappelez dans l'une des émissions que nous avons passées ici sur Radio Kapi, je vous avais dit que le changement au sein de FARDC ne va rien apporter, aussi bien dans le social de militaires congolais que dans l'opérationnalisation de la profession même de l'art militaire. Le remplacement, la nomination du général Célestin Bala, même si c'est un homme que je connais qui est compétent, mais dans un système qui est le système congolais chapeauté par les différentes alliances et les conglomérats qui est à Kinshasa aux affaires, je ne vois pas comment est-ce qu'un meilleur homme revêté dans des écoles militaires pourra trouver une solution. Je reviens à un certain nombre d'éléments qu'il faut soulever. C'est que ici, nous sommes face à une situation où vous avez des groupes armés qui n'ont jamais eu l'ambition de renverser les institutions, même si les départs ils n'arriveront pas à prendre des mains, comme ça ce fut le cas avec le M23, ou arriver au Sankourou chez moi dans le Kasaï, jusqu'à Kinshasa. Donc ce sont des groupes armés conjoncturels, contextuels, qui sont au fait des petits groupes de pression, qui sont efficacement utilisés pour des questions politiques. Parce qu'une autre question, une autre façon de faire la politique, c'est cette insécurité-là. Et je reviens ici pour vous dire que là, il est à noter ostensiblement l'échec de tout le mécanisme des organisations régionales, CIRGL, mécanisme conjoint de vérification des frontières, de transmission des renseignements, parce que les armées traversent les frontières, et que donc toutes ces organisations ne servent à rien, ne servent pratiquement à rien. Un deuxième élément que j'ai voulu soulever, c'est qu'au-delà de l'échec des organisations régionales, il y a l'échec de la mission des Nations Unies. Nous avons une mission qui a des bases à l'est du pays, même si la mission de la sécurisation de la défense de la RDC est une mission régalienne de l'État congolais, mais nous avons une mission en tant que membre des Nations Unies, nous avons une mission de l'ONU qui a Kinshasa, qui a plus de 18 000 hommes, dont on a plus d'un milliard de dollars par an de budget, et dont la mission était de stabiliser la RDC. J'ai l'impression, c'est pas par ironie, c'est par le constat, j'ai l'impression que c'est pour stabiliser l'insécurité à l'est du pays. Parce que tout se fait dans le précaré où se trouvent les brigades des Nations Unies. Et le troisième constat, c'est l'échec, la faiblesse, sinon la connivence de l'État congolais dans cette situation. Vous savez que nous approchons des élections, entre guillemets, qui sont hypothétiques, avec 80 000 bureaux de vote, des machines qui sont commandées, qui ne sont pas encore totalement arrivées, des urnes dont on doit récupérer à Matadi qui viennent d'arriver, etc., etc. Est-ce que nous ne sommes pas là dans un contexte dont on va se servir de ces groupes armés que l'on gère autrement pour justifier une question politique qui sera brandie plus tard? Par exemple, pour le report de la tenue des élections. C'est encore une probabilité qui peut être plausible. Vous avez la situation qui est à Kinshasa, une insécurité où on tue des dizaines, et on vous dit toujours, en pleine capitale, là où vous avez les commandants suprêmes des forces armées, de toutes les institutions, on vous dit que les personnes non autrement identifiées ont tué une dizaine de jeunes à Kinshasa. Non, c'est une situation qui est entretenue. C'est une situation, c'est le moment de l'été.
Monsieur Timothée.
C'est une situation qui est entretenue.
Monsieur Timothée, s'il faut parler de ces seigneurs des guerres, dans le grand Kivu, Yakutumba fait parler encore de lui après un long moment de silence, comment vous comprenez la capacité de résister de ces chefs de guerre qui sont toujours là?
Oui, mais je l'ai expliqué. Et Yakutumba s'était exprimé il y a environ 6 mois. Alors lorsque vous situez de 3 à 6 mois, et lorsque vous situez un peu cette période, c'était au moment où il y avait des turpitudes au niveau de Kinshasa par rapport à savoir si oui ou non les chefs de l'État se représenteraient, et que ceci, cela. Donc, chaque fois qu'il y a un enjeu politique important au niveau de la capitale, eh bien, il y a résurgence des groupes armés. Alors, nous nous posons la question, qu'est-ce qui fait qu'ils résistent? Ils résistent parce qu'effectivement, ils bénéficient de la collaboration, de l'appui des institutions de l'État. C'est cela. Comment ces gens se ravitaillent? Comment ils sont ravitaillés? Alors, s'ils ne bénéficient pas de la logistique qui vient de... On a parlé de votre reportage, et puis clairement qu'ils sont lourdement armés.
Merci.
Ça sera alors soit l'appui des institutions de l'État, soit l'appui des pays voisins à ce moment-là. Et ça tombe justement à ce que j'ai dit tantôt, de la faiblesse.
Merci.
Il arrive que ce sont des groupes qui ne sont pas soutenus.
Merci. Monsieur le gouverneur Abdallah Penembaka, vous allez réagir à cette réflexion qui vient de Kisangani.
Rio Barouani Amissi, depuis la ville de Kisangani, dans la province de la Tchopo. La persistance de la sécurité dans l'est de la République démocratique du Congo s'explique par plusieurs faits. À savoir, d'abord, il y a manque de la collaboration étroite entre la population concernée et les forces de l'ordre. Ensuite, nous constatons l'ignorance des vrais problèmes, des problèmes réels par les autorités politico-administratives pour les résoudre. Enfin, il y a une faible attaque des forces armées de la République démocratique du Congo lors d'affrontements, alors que ces groupes Maï-Maï frappent par tous les mécanismes possibles et s'attrapent pour les identifier pendant qu'ils vivent sur le même territoire. Ainsi, à mon avis, l'État, à travers ses institutions ou services de l'ordre, doit se faire violence pour sécuriser son espace interne ou son territoire national, beaucoup plus sa population qui vit de terre au ventre et de la psychose.
Monsieur le gouverneur Abdallah Penembaka.
Oui, je suis le... Merci beaucoup, je suis l'intervenant. À certains points, je partage ce point de vue parce qu'il y a à certains endroits où les tracasseries sont souvent à la base de certaines tendances à l'autoprise en charge, ça c'est vrai. Il n'y a pas une bonne collaboration entre les services de sécurité et à un certain moment certaines couches de population. Je partage ce point de vue. Mais j'allais d'abord commencer par répondre, parce qu'on m'a dit qu'il y a quelqu'un, un intervenant, l'honorable Mounoubo, qui a voulu nous faire une remarque. Il dit que nous parlons souvent de la situation sous contrôle. Qu'est-ce que cela veut dire? Peut-être que c'est un des termes simples. Je veux dire à l'honorable, situation sous contrôle, c'est qu'il dit là où on a été attaqué, nos hommes sont là et ils maîtrisent le terrain. Et là où nous avons pu cibler comme étant la base de retranchement de ces assaillants, nous avons capturé aussi et nous maîtrisons cet endroit-là. Et leur état-major a été démantelé, c'est ce qui fait qu'on a pu arrêter quelques-uns qui sont à Bounia. C'est ça, veut dire la situation sous contrôle.
Et il ne faudra pas qu'on dise à travers ce micro ici que les forces armées de la République démocratique du Congo sont débordées. Non. Le problème, c'est que nous devons savoir, les criminels ont toujours un petit pas d'avance par rapport aux gendarmes. Ça, c'est un principe universellement reconnu. Qu'est-ce qui s'est fait? À un certain moment, on attaque de partout. Il faut un temps pour s'organiser. Il faut des moyens pour contre-attaquer. C'est tout à fait. Et lorsque je dois vous dire ici, monsieur le journaliste, qu'il y a beaucoup de cas que nous avons pu déjouer avant que ça soit déclenché, sincèrement, vous n'allez pas, peut-être certaines mauvaises langues ne vont pas comprendre. Je vais vous dire à Arou, il y a ce qu'on a appelé ALPC, de Aïki Tabani, qui était en intelligence avec certains de nos frères qui sont à l'extérieur, ainsi de suite, qui voulaient déstabiliser la province de l'Ituri à partir de Aro. Nous avons réussi à démanteler ces réseaux-là et personne n'a félicité les forces armées de la République démocratique du Congo. Je n'ai pas même pas suivi les rapporteurs de la commission défense de l'Assemblée féliciter les services de sécurité qui ont réussi à démanteler. Voilà, c'est lorsque ça ne marche pas, on est le premier à critiquer, mais lorsque ça marche, personne ne prend son courage pour pouvoir féliciter nos services.
Merci.
Et la situation telle qu'elle se présente, effectivement, il ne faudra pas qu'on donne une lecture monolinéaire. Effectivement, il y a ça dépend de contrées, ça dépend de problèmes qui se posent. Il y a plusieurs facteurs qui expliquent cette résurgence. Mais s'il faut qu'on parle de Ndjoukou, je me dis, il ne faudra pas que je m'apprête juste à mettre à la place publique le premier élément de l'interrogatoire. Parce qu'il suffit que je mette à la place publique, le premier élément de l'interrogatoire, ça peut soit être contredit par ceux-mêmes qui nous renseignent aujourd'hui, ceux-là qui sont arrêtés, ou bien peut-être qu'ils le font pour nous déjouer ou bien pour nous dérouter.
Merci, monsieur le gouverneur, merci, nous avons compris, nous allons vous redonner la parole pour la conclusion. Monsieur Maître Juvenal Munubo, il y a une réflexion pour vous qui vient de Kinshasa.
Patient Biamungu Rukuba depuis la ville province de Kinshasa. Je suis tenté de penser que ces guerres qui surgissent juste à l'approche de chaque rendez-vous électoral sont plutôt mécaniques quand je fais allusion aux événements de Kamwena Nsapu avant décembre 2016, date qui était prévue pour les élections selon les délais de la constitution actuelle, fait d'avant décembre 2017 avec ce même Akotumba dans les Fizi et Uvira, alors que énième date des élections selon l'accord de la Saint-Sylvestre et encore actuellement au moment où nous nous approchons de la date que la CENI a elle-même choisie, c'est le même Akotumba qui surgit avec ses mêmes revendications politiques, pourtant se reconnaissant armé, domaine purement apolitique. Ironie du sort, à chaque résurgence de ces groupes armés, les commandants suprêmes des FRDC ne fait aucune déclaration allant dans le sens de dissuader ces prétendus rebelles. Cette attitude nous pousse à pousser loin notre réflexion et à donner raison à ceux qui disent que le silence est un signe de complicité.
Oui, honorable Munubo, cet auditeur semble rejoindre Timothée Chaombo Soucha dans son analyse lorsqu'il parle des groupes armés conjoncturels utilisés pour des questions politiques.
Oui, le lien entre les groupes armés et les forces de sécurité ou les éléments, hein, si pas tous les éléments des forces de sécurité, a été évoqué. Ce n'est pas dans cette émission déjà. Avant, ça a été évoqué, même dans les quelques rapports des Nations Unies. Et je ne peux pas confirmer que c'est fait à dessein à la veille des rendez-vous électoraux. Je considère, je souhaite que cette coïncidence soit innocente. Hein. Mais ce qu'on remarque, effectivement, c'est que la situation se détériore au jour le jour. Et pourtant, on avance vers les élections, en tout cas vers la date prévue pour les élections le 23 décembre 2018. Et nous avons tiré la sonnette d'alarme depuis bien longtemps, qu'il fallait sécuriser le pays en prévision aussi des élections. Mais il n'y a pas eu assez d'efforts. Quand il y a des efforts, nous les disons. Hein, et là, je réponds à M. Abdallah. Quand les gouvernements congolais, les FRDC, ont mis fin au M23, mais d'une manière officielle à Rutshuru sur terrain, nous l'avons dit, tout le monde a salué cette victoire-là. Et c'était dit à quoi? D'abord à un commandement efficace, hein, des commandants vaillants comme Femamadou, comme Bahouma, Febahouma. Et c'était dit aussi à une bonne collaboration entre les forces de sécurité, l'armée et la population. la population qui ne prêtait pas main forte aux groupes armés. Et c'était dû aussi à une pression extérieure, hein, l'action des envoyés spéciaux des gangs-là, qu'il faut pas oublier. Quand il y a des bonnes actions, nous le disons, nous le témoignons. Mais quand il y a des ça ne va pas, je crois qu'il faut le dire aussi si nous voulons que la situation change. Et donc, je ne peux pas confirmer, M. Patient Biamungu, je ne peux pas confirmer que cette coïncidence évolue, mais je constate que des efforts devraient être déployés, en tout cas pour nous aider à avoir un environnement sécurisé. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la sécurisation des élections, et je me dis que ce n'est pas maintenant qu'on devrait s'y prendre. Et, hein, on devrait s'y prendre depuis bien longtemps, sachant qu'on va vers les élections, pour que l'insécurité ne constitue pas une cause pour reporter les élections. Et donc nous devons rester vigilants et appeler le gouvernement à davantage de responsabilités à travers les contrôles parlementaires. Il y a une session qui commence, espérons que c'est la toute dernière session, parce que nous devons aller aux élections. Eh bien, nous allons encore faire notre travail du contrôle parlementaire de la défense, du secteur de sécurité.
Voilà, honorable.
Lorsque, par exemple, dans des territoires comme Walikale, on dit que les groupes armés prélèvent des taxes, des barrières illégales et des taxes. Et là même, en territoire de Walikale, parce que je viens de là, les services de l'État tels que TD, hein, les services de l'armée, l'ANR, la DGM érigent des barrières, perçoivent des taxes. On se dit, mais qui fait la différence entre l'État et les groupes armés? Alors, dans cette situation, comment voulez-vous que nous ayons des résultats efficaces?
Honorable Mounoubou,
les mêmes mots qu'on reproche aux groupes armés, on les reproche aussi aux services étatiques. Donc, oui, il faut faire un effort, il faut se remettre en cause.
Voilà, honorable Mounoubou, vous avez, lorsque vous évoquiez, n'est-ce pas, les facteurs qui expliquent la persistance de l'insécurité, vous avez notamment parlé du retard dans la réforme des services de sécurité, l'armée et la police. Et vous, en tant que membre de la commission défense et sécurité à l'Assemblée nationale, comment vous expliquez ces retards quand on sait que beaucoup d'efforts ont été fournis, les partenaires ont donné des moyens, le gouvernement congolais a donné des moyens? Comment vous expliquez que tout cela n'a pas produit des résultats escomptés?
Le problème, c'est au niveau des moyens financiers, justement. Il y a eu, d'abord sur le plan cadre juridique, cadre légal, hein, l'armée a déjà une loi organique, un statut du militaire, tout comme la police aussi. Pour la police, il existe un plan d'action quinquennal, mais tout le problème, c'est est-ce que les moyens sont mobilisés pour l'armée et pour la police? Des moyens financiers. Quel est le budget de défense? C'est ça. Les budgets que nous propose le gouvernement. Le budget de l'armée ne dépasse pas 400 millions de dollars. C'est ça le problème. Et la gestion de l'armée, est-ce qu'elle a cessé d'être annuelle? Parce qu'il faut gérer l'armée sur une longue période. Il faut une loi de programmation. Il faut une planification qui s'étale sur 3 ans, 5 ans. Est-ce qu'on a cet outil-là d'investissement? Parce qu'il faut investir dans les FRDC, changer vraiment l'image, placer les militaires dans de bonnes conditions de vie et de travail, construire les logements des militaires, mettre les militaires dans des casernes, et acquérir des équipements modernes.
Merci.
Tout ça. Donc il y a des efforts à faire à ces niveaux.
Merci, on a compris.
Je regrette souvent parce que les officiels n'arrivent pas à se réaliser qu'il y a encore beaucoup à faire.
Merci, honorable. Monsieur Timothée Chaombo Soutia, vous allez réagir à cette réflexion qui vient de Kananga.
Sébastien Daye, depuis Kananga, au Kasaï central. En effet, c'est ici le lieu de rappeler que le regain de l'insécurité à l'Est est tributaire de beaucoup de facteurs. D'abord, point n'est besoin de signaler le caractère complice qui révèle cette guerre et dire à première vue que cette guerre est d'abord entretenue par le prédateur international qui exploite les richesses de la région grâce au concours et au réseau mafieux des groupes rebelles et de certains pays voisins sans pour autant être inquiété ni par l'État congolais parce qu'étant lui aussi complice en instrumentalisant certaines personnes dans cette région dans les buts inavoués, déstabiliser cette partie du pays afin de trouver des prétextes pouvant justifier la non-organisation d'élections dans le délai. Et je m'en vais pour preuve la déclaration du général Yakutumba affirma que sa lutte ira se terminer à Kinshasa, ce qui est une mascarade pire et simple.
Timothée Chaombo Soutia.
Oui, effectivement, moi je crois que l'auditeur aborde dans le sens de mes analyses. Il n'est pas pour qui que ce soit. Il savoir que les pays qui ne produisent pas du coltan sont des pays vendeurs, des certificateurs de produits qui ne se retrouvent pas sur leur sol, des produits qui sont dans notre pays, sur le sol congolais, dans le répertoire des minerais congolais. Donc, les multinationales sont, pour beaucoup, sont des guerres économiques. Mais les guerres économiques ont le même contre un État dans un État. Et donc, c'est l'État qui doit se défendre. Or, l'auditeur, si on chérit, on dit qu'il y a la complicité du pouvoir local, l'autorité du pouvoir local, je veux dire, de l'État congolais, en complicité avec les pays voisins. Donc, cette situation est établie. Plusieurs rapports des Nations Unies et d'autres experts ont prouvé comment ça se passe, ce trafic d'armes. C'est ici le lieu d'indiquer, et je ne suis pas d'accord du tout lorsque le gouverneur, comme le député Juvénal, parle des moyens. Il y a énormément de moyens qui sont débloqués, énormément. Même les 400 millions seulement, qu'il n'y a pas de vrai contrôle. Seulement, on ne donne pas la place aux députés d'aller palper du doigt la réalité. Personne ne sait contrôler comment se gère dans l'armée. Or, là, on parle de l'armée comme du domaine exclusif du président de la République. Ça ne peut pas être comme ça.
Merci, Timothée.
Voilà, à partir du moment où il y a des élus, oui.
Oui, vous évoquez, vous insistez sur la complicité de l'État dans cette insécurité. Et cela a été aussi, n'est-ce pas, relevé par Juvénal Mounoubo. Est-ce que vous pensez, j'ai toujours posé cette question-là, vous pensez que l'État aurait vraiment intérêt à comploter contre lui-même?
L'État, dans les pays d'Afrique, il a été établi qu'on utilise l'armée et les services de sécurité pour faire autrement la politique. Nous avons relevé ça plusieurs fois. Regardez comment, par exemple, à Beni, qui se trouve la ville la plus militarisée de la RDC, qu'est-ce qui fait que les gens peuvent arriver alors que la population vienne avertir aux services qui sont là? Qu'est-ce qui fait qu'il y a des gens qui arrivent, qui enlèvent des gens, qui décapitent et tout, et qu'on attrape personne, qu'on arrête personne? Voilà. Il y a Koutoumba qui, quelqu'un l'a relevé tantôt, il fait cette déclaration, et puis quand l'accord de la Saint-Sylvestre est passé, il s'est retiré, il est tranquille. Maintenant qu'on parle des élections, il revient. Non, c'est une situation qui est entretenue, et il n'y a personne qui le dira à haute voix. Et d'ailleurs, il faut dire aussi que c'est une situation qui permet à un certain nombre d'acteurs politiques ou même des officiels de justifier les fonds qui sont alloués dans leur service.
Timothée, nous sommes arrivés presque à la fin de l'émission. Vous dites que c'est une situation qui est entretenue. Et à votre avis, que faut-il pour pacifier de façon durable l'Est de la RDC? Ça sera sur votre conclusion.
L'Est de la RDC a eu 18 ans avec le régime qui est en place. Je ne vois pas quelle recette le régime de Kabila pourra proposer. Il faudrait organiser de bonnes élections transparentes et inclusives qui permettront de nouveaux animateurs au sein des institutions pour travailler aussi avec des institutions régionales pour qu'au niveau de l'intérieur, on puisse trouver des gens crédibles, légitimes, mais aussi qui auront l'ambition de donner à ce pays à la paix.
Merci. Merci, monsieur le gouverneur. Vous allez aussi conclure, selon Timothée Chaombo Choucha, pour pacifier de façon durable l'Est du pays, c'est d'organiser des élections, des bonnes élections.
Oui, monsieur le journaliste, je crois que c'est ce qui est en train d'être fait. Le processus électoral, depuis qu'il a commencé, je crois, il est toujours surveillé par la population ainsi que par l'opinion internationale. Mes co-débatteurs ont dit ici haut et fort qu'il y a une certaine complicité de l'État, mais personne ne saura dire qui a fait quoi.
Merci. Honorable Mounoubo, votre conclusion en un mot.
Alors la solution, il faut l'alternance évidemment, mais il faut que les nouvelles autorités mettent sur pied une bonne gouvernance sécuritaire, mais il faut qu'il y ait de bonnes élections aussi et pas des élections contestables.
Merci, c'est la fin de cette émission et à ce jeudi pour un autre débat. Bon suite de programme sur Radio Capitale.